Merci d'écouter Radio France Internationale, 19h30 en temps universel et à Dakar.
Afrique Soir sur RFI. Victor Moria.
L'inquiétude grandit au Sénégal à 5 jours des législatives. L'appel à venger ses partisans victimes d'agressions du Premier ministre Ousmane Sonko scandalise classe politique et société civile. C'est la fin d'une mesure de restriction qui aura duré 5 ans dans la région de l'Est burkinabé. Le couvre-feu a été levé ce matin par le gouverneur. Surmonter le passé, faire à nouveau de l'Afrique une puissance économique mondiale, c'est le mantra du forum Makutano qui s'ouvre demain à Kinshasa. Et puis le président togolais appelle à la justice climatique et demande des efforts aux pays occidentaux. Et enfin, les éliminatoires de la CAN reprennent demain. La polémique au Sénégal n'en finit pas d'enfler. À 5 jours des élections législatives, les déclarations d'Ousmane Sonko appelant ses partisans à se venger des agressions menées, selon le Premier ministre, par des opposants en campagne, ont fait l'effet d'une déflagration dans la société sénégalaise, car cette déclaration ravive les craintes de violences électorales après les dizaines de morts lors des manifestations avant la présidentielle. À Dakar, notre envoyée spéciale permanente, Léa Lisa Westerhoff.
Dans cette publication, Ousmane Sonko va même jusqu'à réclamer que le maire de Dakar, à la tête de la coalition Sam Sakadou, soit interdit de faire campagne. Selon le Premier ministre candidat à ces législatives, la coalition de l'opposition s'est rendue responsable dans plusieurs villes du pays d'agressions de militants de son parti, le PASTEF. Il appelle donc ses partisans à répondre au nom d'un droit légitime, je cite, à la riposte. Une déclaration qui a fait bondir l'opposition, mais pas seulement. Dans les rangs de la société civile et du parti au pouvoir, nombreux sont ceux qui appellent le Premier ministre à revenir à la raison. Ces déclarations d'Ousmane Sonko révèlent en tout cas la violence qui sous-tend la campagne. Après ce nouvel accrochage hier entre militants du PASTEF et militants de la coalition de Barthélemy Diaz à Saint-Louis, dans le nord du pays, selon plusieurs témoins, des membres de la caravane de Sam Sakadou auraient blessé des sympathisants du PASTEF à coups de couteau. À la mi-journée, le gouverneur de Saint-Louis annonçait en tout cas l'interpellation de 81 personnes, tout en invitant les acteurs politiques une nouvelle fois à bannir la violence. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
De son côté, Sam Sakadou dénonce un appel au meurtre lancé par le Premier ministre, une tentative de museler la démocratie et d'installer un climat de terreur. C'est ce qu'écrit la coalition d'opposition sur les réseaux sociaux. Pour les autres candidats, l'inquiétude monte également. L'ancien Premier ministre et candidat de la coalition, Djamak Ndjarine, appelle au calme et à la retenue. Il est de notre responsabilité individuelle et collective de bannir à jamais les affrontements physiques dans l'espace politique, explique-t-il. Pas de passe-droit pour les candidats du pouvoir au Tchad à cette semaine des élections locales et législatives. Au moins 6 candidatures du MPS, le parti de l'ancien président Idriss Déby, aujourd'hui principal soutien de son fils et successeur Mahamat Idriss Déby, ont été rejetées par l'agence chargée d'organiser les scrutins. Selon les lettres de rejet consultées par RFI, dont l'ange a confirmé l'authenticité, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zenbada, fait partie des déboutés. Sollicité par RFI, le porte-parole du parti Issa Doubra indique que le MPS procède actuellement à un travail de vérification et qu'il se tiendra aux côtés des candidats non retenus pour des recours éventuels. Fin de citation. Le Burkina met fin au couvre-feu en vigueur depuis 5 ans dans la région de l'Est. La mesure avait été décrétée en raison du contexte sécuritaire et de la présence de groupes armés djihadistes particulièrement violents ces dernières années, notamment dans cette région frontalière du Niger. D'autres couvre-feux sont également en place dans d'autres régions du pays, mais le gouverneur de l'Est a levé l'interdiction de circuler ce matin. Sidi Yansane.
Le couvre-feu a pris fin avant l'aube aujourd'hui à 4h du matin précisément, d'après le communiqué du gouvernorat basé à Fadangourma, le chef-lieu de la région de l'Est. Dans son annonce, le gouverneur traduit sa sincère gratitude à l'ensemble de la population pour son civisme durant ces 5 années et il souligne l'importance de la collaboration entre les civils et les forces burkinabées pour parvenir à la reconquête totale du territoire. Depuis son instauration en 2019, ce couvre-feu dans l'Est a été renouvelé de nombreuses fois et ses horaires réajustés en fonction de l'insécurité du moment. La mesure pouvait s'accompagner par exemple de l'interdiction d'utiliser certains types de motos, moyen de transport le plus prisé des groupes armés et djihadistes. Mais si le gouverneur annonce la fin du couvre-feu, il ne précise pas les raisons de cette décision. Officiellement, rien n'indique que le contexte sécuritaire s'est amélioré ou serait en voie d'amélioration. Joint par RFI, des contacts résidents dans la région de l'Est expliquent que l'instauration du couvre-feu n'a pas montré de réelle efficacité. intensité pendant ces 5 dernières années, notamment à cause de l'évolution en dents de scie de la situation sécuritaire.
Sidi Yansané, au Mali, pas de libération provisoire pour les 11 cadres politiques de la déclaration du 31 mars. Ces anciens ministres et dirigeants de partis engagés pour le retour à l'ordre constitutionnel avaient été arrêtés en juin dernier. Ils sont poursuivis notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. La Cour d'appel a ce matin rejeté leur demande de libération. Leurs avocats expriment ce soir leur incompréhension et dénoncent une procédure injuste. Faire de l'Afrique un centre économique mondial en dépit du passé, c'est l'ambition du forum économique Makutano qui s'ouvre demain à Kinshasa en RDC. Pour sa 10e édition, le forum accueille plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques, dont des membres du gouvernement. Le président Tshisekedi est d'ailleurs attendu pour la journée d'ouverture mercredi. Cette année, la thématique, c'est The New Deal, comprendre, faire bouger les lignes. Yves Kabongo est homme d'affaires congolais, il participe au forum.
On ne veut plus être un centre de négoce comme ça l'a été pendant la période de l'esclavage et la période de la colonisation. Nous voulons faire partie des créateurs de richesses d'un côté et puis nous voulons faire partie du club pour pouvoir détenir une certaine richesse partagée et tout, apporter notre contribution au niveau international, mais que l'Afrique puisse compter vraiment parmi les structures d'investissement, les structures de création de valeur, les structures de transformation en somme. C'est un énorme défi en regardant Nous venons quand même de 400 ans d'esclavage et d'un siècle de colonisation. Donc il faut transformer un peu l'état d'esprit des Africains qui, à un moment donné, nous nous étions emprisonnés conceptuellement dans la dimension « on ne peut que recevoir ». Nous nous mettons en position de commencer aussi à donner. Et pour cela, il faut une réflexion qui soit bien aiguisée, une réflexion qui soit bien dotée pour pouvoir donner pas seulement aux entrepreneurs aujourd'hui, mais aux entrepreneurs d'avenir, des voisins, des moyens de pouvoir participer au développement économique non seulement du pays, mais de la sous-région et du continent en entièreté.
Yves Kabongo au micro de Paulina Zidi. La COP 29 à Bakou s'est ouverte hier en Azerbaïdjan. Peu de chefs d'État et de gouvernement sont présents cette année, mais la ligne des pays du Sud est toujours la même. Les pays riches doivent payer pour les conséquences du changement climatique. Les négociations sont bien sûr difficiles, mais elles sont nécessaires et doivent être menées au nom de la justice climatique. C'est ce qu'estime fort Niasimbe, le président togolais.
Les promesses climatiques non tenues ne suffisent plus. Chaque année, l'urgence s'accentue. Chaque année, l'inaction nous rapproche des points de non-retour. Il est temps que nos actions reflètent l'ampleur de l'urgence. Il faut une véritable justice climatique, c'est-à-dire une responsabilité partagée mais différenciée entre les pays. L'Afrique paie le prix fort de la crise climatique. Nous contribuons peu aux émissions globales, mais nous en subissons néanmoins les impacts les plus sévères. Ce sont nos écosystèmes, notre sécurité alimentaire et nos économies qui sont en première ligne de cette crise. Notre besoin de justice climatique ne peut plus être ignoré. Elle demande à ce que des fonds de soutien conséquents soient déployés pour protéger nos populations et notre biodiversité. Elle exige aussi que les grands émetteurs reconnaissent enfin explicitement ce principe de justice climatique dans les accords internationaux.
Fort Niasimbe, le président togolais. Abidjan accueillera à partir de demain deux nouveaux matchs éliminatoires pour la CAN 2025. Bénin, Nigeria et Guinée, RDC. Des matchs délocalisés pour le plus grand bonheur des Ivoiriens qui ont l'occasion de voir le Nigérian Ademola Lookman et le Guinéen Serou Guirassy, deux des grands favoris pour le Ballon d'Or africain. Et les Abidjanais ont déjà leur préférence. Reportage UN Gourlet.
Dans les rues d'Abidjan, un nom fait presque l'unanimité.
Lookman, c'est lui, je vote.
Le Nigérian a été finaliste de la dernière CAN en Côte d'Ivoire et auteur d'un impressionnant triplé lors de la finale de la Ligue Europa remportée 3-0 par son équipe, l'Atalanta Bergame, face au Bayer Leverkusen qui était pourtant invaincu depuis le début de la saison. Des performances qui ont permis au Nigérian d'être le seul Africain nommé pour le Ballon d'Or et de terminer 14e de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Pour Claver, il n'y a pas photo.
Il est performant, il est bon, il marque beaucoup. Il marque beaucoup, puis c'est un bon joueur. Quand il est sur le terrain, j'ai confiance. Quand même quand je parie, je gagne avec lui.
Jeudi, Lookman, il joue au Félicia. Vous allez aller le voir ou pas?
Waouh, je vais au stade avec ma petite famille pour regarder Lookman, mon super joueur.
Face au Nigérian, un sérieux candidat tout de même, le Guinéen Serou Guirassy, serial buteur avec Stuttgart la saison passée, deuxième meilleur buteur de la Bundesliga avec 28 réalisations et auteur d'un gros début de saison avec le Borussia Dortmund. Jesu est fan du joueur.
Il est bon, il est en forme, il est en confiance. Un attaquant, quand tu es en forme et puis tu es en confiance, tu marques des buts.
C'est le genre de joueur qui vous donne envie d'aller au stade?
Oui. Il est bon, mais il marque des buts. Il n'a pas besoin de deux occasions à mettre au moins un. Il est efficace.
Est-ce que son efficacité sera suffisante pour convaincre le jury du Ballon d'Or africain? Réponse, le 16 décembre. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
RFI, c'est la fin de ce journal. 19h40, temps universel.